Radio Kapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'actualité vespérale sur Radio Kapi. Au sommaire, la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé ce samedi au bureau de l'Assemblée nationale les programmes de son gouvernement. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai dernier, le nouveau gouvernement se présentera en début de semaine prochaine à la plénière pour défendre son programme d'action afin de son investiture. À Kanyabayonga, une véritable accalmie s'observe ce samedi matin dans le territoire des Lubero, Nord Kivu. Cela après deux semaines d'intenses combats entre les FRDC et les rebelles du M23. Pendant ces temps, sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga, la situation reste extrêmement fragile. Au cours des violents combats jusque tard ce vendredi, l'armée congolaise a récupéré plusieurs villages dans la zone, éloignant ainsi les combats de la cité de Kanyabayonga. L'invité de ce journal est le lieutenant-colonel Kedan Imensa, porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Il revient sur les opérations de la force de la MONUSCO en appui au FRDC à la protection des civils dans la zone de combat contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Bonsoir à toutes et à tous. Politique, le gouvernement Judith Suminwa est sur le point d'être investi en début de la semaine prochaine. La première ministre a déposé ce samedi au bureau de l'Assemblée nationale les programmes de son gouvernement. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai dernier, le nouveau gouvernement se présentera à la plénière pour défendre son programme dont l'analyse et les débats seront focalisés sur la représentativité territoriale des actions prévues par les gouvernements. D'après la Première ministre, ce programme a été conçu afin de répondre aux six piliers du programme du deuxième quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Judith Suminwa-Tuluka donne l'économie de ces programmes au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de six engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer. Nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que le changement climatique a un impact sérieux.
La sphère politique congolaise a un nouveau parti dénommé Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC. Lors de sa sortie officielle ce samedi en la salle CEPAS à Kinshasa, son président national Charles Bamana a indiqué que ce parti prône l'unité et le développement du pays. Il a également fait savoir que l'UDDC se bat partout pour le bien-être social. Les propos de Charles Bamana recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Le parti, c'est un parti classique qui prône le développement, c'est un parti qui parle des sociodémocrates. Les sociodémocrates, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on ne peut pas parler matin, midi, soir de la démocratie. Est-ce que vous mangez la démocratie?
Non.
Ouais, si vous ne mangez pas la démocratie, l'UDDC est là pour vous. C'est pourquoi moi je demande des gens qui sont dans leur parti respectif, qui hésitent encore, de nous rejoindre. Donc l'UDDC, nous allons vous donner la place. Les autres, ils font la politique de leur façon comme ils entendent. Mais nous voulons la politique des actions. Pas la politique des discours. L'UDDC ne va pas croiser les bras seulement pour condamner. L'UDDC aussi sera acteur du développement. Nous allons poser des bases parce que nous sommes du côté de notre population. L'UDDC va porter sa vision. Sa vision, c'est quoi? Le développement. Tous ceux qui sont dans le développement, à la base, dans le Congo profond, ils savent dans quelles conditions nos mamans, nos papas, nos frères vivent. Mais si, en tant que parti politique, nous allons seulement nous mettre à faire les dialogues aux uns et aux autres, on ne fera pas notre travail.
Sur la ligne des fronts, une certaine accalmie est observée ce samedi matin à Kanyabayonga dans les territoires de Lubero au nord Kivu. C'est après deux semaines d'intenses combats entre les FRDC et les rebelles du M23. Selon les bourgmestres de cette commune rurale, aucun tir d'armes n'a été entendu la nuit dernière. L'ennemi aurait été repoussé au-delà du site d'armoirie à plus de 15 km de la cité sur la route Rwindi, ajoute-t-il. Dès hier après-midi, les activités socio-économiques avaient repris timidement dans certains quartiers de cette cité, précise Kasereka Fatiri, bourgmestre de cette commune, qui ajoute que la présence de FRDC et des casques bleus de la MONUSCO rassure la population civile. Pendant ce temps, la situation reste extrêmement volatile ce samedi sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga. C'est dans la partie nord de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Jusqu'à tard dans la soirée, hier vendredi, des violents affrontements y ont opposé l'armée congolaise et ses alliés locaux aux rebelles du M23. Les sources locales confirment la reconquête par l'armée congolaise de plusieurs villages de la zone, éloignant ainsi les combats de la cité de Kanyabayonga au sud de Lubero.
Les violents combats ont été signalés entre 17h et 20h locales hier vendredi dans les villages Mirangi, Lusuli et Kiala, une vingtaine de kilomètres de la cité de Kanyabayonga. Selon certaines sources militaires, les éléments FRDC et ceux d'une coalition d'au moins trois groupes armés locaux ont débordé les rebelles du M23 pour les attaquer et réussir à les déloger dans ces entités qui seraient à nouveau sous contrôle de l'armée. Toutefois, selon nos sources, les rebelles du M23 maintiennent toujours leur emprise sur les villages Lusoa et Bulindi, en mi-chemin entre les trois villages et Kanyabayonga cité au sud de Lubero. D'autres combats ont été signalés dans les mêmes heures à Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, et sur l'axe Kabasha-Armoiri, dans le parc national de Virunga, en direction de la Rwindi, toujours en territoire de Rutshuru. Côté bilan, nos sources parlent des déplacements des populations et une dizaine de civils qui auraient été tués comme victime collatérale à Kiala dans ce combat d'hier vendredi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Restons au nord Kivu. Dans les territoires de Beni, la société civile d'Eringeti alerte sur la dégradation de la situation sécuritaire sur l'axe Eringeti-Kainama qui relie la province du nord Kivu à celle de l'Ituri. Cela après plusieurs mois d'accalmie. Mercredi dernier, des voitures de transport en commun qui se rendaient de Bunia à Beni ont été attaquées par des rebelles des ADF au niveau des Maïsafi et Mamaneema à une vingtaine de kilomètres de la localité d'Eringeti. Il y aurait eu des morts et des blessés, affirme la société civile d'Eringeti qui demande à l'armée de renforcer ses effectifs sur ces tronçons routiers. Zawadi Maliro, son président, est joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Leur bastion loge dans le bassin de la rivière Luna qui débite du nord d'Eringeti aux frontières du nord Kivu et province du Tour. Il y a un bastion qu'on appelle Possession Kapel, là c'est vide. Il y a Kikungu, c'est vide, il y a Matungulu, c'est vide, Kazaro, c'est vide. Partout là, donc vers nord-est de Ringeti, partout là, c'est vide, il n'y a pas de position militaire. Il y a même des lettres à qui nous avions adressé aux opérations secteur Sokola. Ça fait même un mois, puisque ce qui s'est en train de se passer, c'est étonnant. Alors le gouvernement qui ici se voit comment est-ce qu'il veut planifier la garantie de sécurité de la population partout là où il y a le territoire de Beni. Puisque l'unité que nous avons ici quand même, nous remercions beaucoup, ils travaillent sauf l'effectif. Mais ce sont des militaires vraiment dignes, ce sont des patriotes vraiment.
Contactées, des sources militaires dans la région reconnaissent cette situation. Elles affirment que des patrouilles ainsi que l'escorte des véhicules sont régulièrement organisées dans cette zone malgré des problèmes d'effectifs et des logistiques. En Ituri, 23 civils sont tués et d'autres pris en otage en l'espace de deux mois par une faction du groupe armé Zaïre dans les secteurs de Banyalikilo et la commune rurale de Mongwalu dans les territoires de Djougou. Ces chiffres sont publiés par les responsables de l'association culturelle Lori qui regroupe le peuple baalé au cours d'un point de presse à Bunia ce vendredi. Selon les rapporteurs de cette structure, cette situation affecte négativement la cohabitation pacifique entre les communautés. René Chello soutient les démarches des autorités pour consolider les acquis de la paix à travers les dialogues entre les communautés. Il est au micro de Jean-Claude Lokidile.
Eu égard à ce qui précède, nous demandons l'implication du gouverneur d'user de tout son pouvoir afin de mener les opérations adéquates contre les groupes armés réfractaires au processus de paix, de réunir de toute urgence les deux communautés, Niali et Lendu, pour de pourparlers de paix. À l'auditeur supérieur, près la cour militaire, en tant qu'organe de ministère public, de se saisir d'office de ces dossiers et de poursuivre le présumé auteur de ces crimes graves et actes inhumains que les membres de notre communauté ont subi au vu et au su des services de sécurité présents à Kilo. La communauté Balelendu réitère son appui aux différentes initiatives locales de consolidation du processus de paix en Ituri, à l'occurrence la tenue du dialogue intercommunautaire, afin d'exploiter les mécanismes traditionnels du règlement des conflits.
Le tribunal de paix de Mahagi ne siège plus sur toutes les matières pénales depuis environ 3 ans, faute de juges. Conséquence, la plupart des prisonniers sont détenus de façon irrégulière. Les conditions de détention sont également précaires dans la prison centrale de Mahagi, où adultes et enfants en conflit avec la loi partagent les mêmes cellules. C'est le constat fait par une équipe conjointe d'inspection judiciaire, MONUSCO et autorités congolaises qui est revenue jeudi de cette entité territoriale. Isaac Remoyo.
Le tribunal de paix de Mahagi ne dispose que d'un seul juge au lieu de 3 pour siéger valablement sur les dossiers en matière pénale, ce qui fait que plusieurs détenus ne sont pas fixés sur leur sort à la prison centrale de Mahagi qui abrite actuellement 89 personnes dont la plupart sont des prévenus. De nouveaux prisonniers qui s'ajoutent à ces derniers passent également des mois sans être jugés. À cela s'ajoutent les conditions de détention qui ne répondent pas aux normes requises. Environ 19 enfants en conflit avec la loi sont mélangés avec des adultes dans une salle exiguë. L'établissement des gardes et d'éducation de ces enfants construit en Ngoté à une vingtaine de kilomètres est occupé par des déplacés. Selon cette équipe d'inspection, ce bâtiment doit être réhabilité avant de délocaliser ces enfants. Cette délégation déplore aussi le manque d'eau et d'énergie pour éclairer la prison centrale de Mahagi. Au cours d'une journée porte ouverte organisée au début de la semaine à Mahagi, certains activistes des droits de l'homme demandent au gouvernement de nommer dans l'urgence des juges dans cette juridiction. Ils réclament aussi l'amélioration des conditions de détention dans cette prison à séparant les enfants détenus des prisonniers adultes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Santé à présent, le choléra refait surface au Kasaï oriental. 3 cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés en l'espace de 5 jours au centre de traitement de cette épidémie installé à l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimayi. 2 cas proviennent de la zone de santé de Mouya à Mbujimayi et un autre de Tshilenge, à plus ou moins 30 km de la ville. À cet effet, Dr Jean-Pierre Sumba, médecin épidémiologiste provincial, demande à la population d'observer les règles d'hygiène. Il a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Les cas couleurs de la zone de santé de la Mouya, ils sont pris en charge dans le centre de traitement de choléra qui est à Mouya. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons reçu aussi un cas de choléra qui vient cette fois-ci de Tshilenge. C'est un jeune homme de 14 ans qui est aussi interné dans le même centre. Les mesures ont été prises par rapport à la prise en charge, mais aussi on a fait un effort pour que, au niveau communautaire, on puisse faire le quadrillage des endroits d'où provenaient ces cas. Et on a désinfecté le maison, environ 20 ménages autour de la maison mère. Et peut-être que pour Tshilenge, on va le faire déjà demain parce que le cas est arrivé aujourd'hui. Il y a aussi la population qui doit revenir à nos mesures hygiéniques, qui doit tenir compte de l'hygiène corporelle, de l'hygiène alimentaire, surtout de l'environnement aussi, pour que la maladie ne puisse pas continuer dans nos milieux. Sinon, nous avons aussi pour demain une grande réunion avec toutes les parties prenantes pour voir comment on peut mener la lutte contre ces retours de choléra au niveau de la province.
Toute autre nouvelle, en marge de la Journée mondiale de l'environnement, la Faculté de l'économie et développement de l'Université catholique du Congo a organisé une matinée scientifique dans l'amphithéâtre de son campus à Mongafula ce vendredi 7 juin. Le secrétaire général académique de cet établissement universitaire a convié les étudiants à la conscientisation sur les reboisements des arbres et à la protection de la terre. On écoute l'abbé François Yumba dans ses propos recueillis par Étienne Lissumbu.
Nous voulons donner un message aux jeunes. Vous avez vu, nous-mêmes, nous avons planté des arbres. C'est pour inviter les plus jeunes à penser à l'avenir, à pouvoir eux aussi protéger cette même planète, à protéger l'environnement. Nous sommes conscients au niveau de l'université que notre planète est menacée. Alors, nous sommes appelés à protéger cette planète et en la protégeant, nous protégeons aussi l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la fois destructeur de cette planète, qui peut aussi en être de restaurateur. En organisant chaque année une journée de l'environnement, c'est d'abord pour protéger l'environnement, c'est pour en même temps sensibiliser toutes nos étudiantes et tous les étudiants, toute la communauté universitaire à prendre conscience de cette menace qui frappe notre planète Terre et aussi prendre conscience que nous ne pouvons pas évoluer comme hommes sur cette Terre sans prendre soin de cette même Terre.
Actualité internationale.
Israël a déclaré samedi avoir libéré 4 otages qui avaient été enlevés lors d'une attaque menée par le Hamas le 7 octobre dans le cadre de la plus grande opération de récupération d'otages depuis le début de la guerre avec le Hamas à Gaza. La présidence israélienne a diffusé dans la journée des images montrant l'otage israélien libéré. Noah Argamani au téléphone avec le président israélien Isaac Herzog. L'armée a déclaré avoir sauvé Noah Argamani, 25 ans, Almog Meirjan, 21 ans, Andrei Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 40 ans, lors d'une opération spéciale complexe menée des jours à Nuseira.
L'invité.
Notre invité dans cette édition, c'est le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parle des opérations de la force de la MONUSCO en appui au FRDC et protection des civils dans la zone de combat contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Il revient aussi sur les interventions de la force onusienne dans la région de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient ici avec Bernardin Nyangui.
Lieutenant-colonel Kidani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'abord, nous commençons par Kanyabayonga. Comment évolue aujourd'hui la situation sécuritaire et humanitaire?
À la lumière des récents affrontements violents entre le groupe armé M23 et les forces armées congolaises au sud de Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, il y a eu un déplacement important des civils vers Kanya, Miriki, Kirumba, certains atteignant Lubero et Butembo. En réponse, la MONUSCO, en coordination avec les forces armées congolaises, a établi et sécurisé des itinéraires sûrs permettant aux personnes déplacées de se déplacer librement vers des zones plus sécurisées. La force de la MONUSCO intensifie ses patrouilles de jour comme de nuit autour des bases des déplacés pour assurer l'aide humanitaire à environ 150 000 hommes, femmes et enfants touchés par le conflit et remplit son mandat de protection des civils. La force de la MONUSCO a ainsi assuré l'approvisionnement en eau et le soutien médical aux personnes déplacées et en fournissant aussi une protection aux agences humanitaires. Elle a aussi effectué depuis le 27 mai 2024 plus de 52 patrouilles en plus de la sécurisation de Lasa, Kilambo, Mirangi, Kanyabayonga, Kania, Kirumba vers les camps des déplacés. En outre, ils interagissent avec ces derniers pour acquérir des informations pouvant leur permettre de dissuader les activités des groupes armés et assurer leur sécurité.
Et alors, dans la province de l'Ituri, qu'est-ce qui s'est passé le 31 mai 2024 dans le village d'Ar par rapport à la détention d'une personne?
Le 31 mai 2024, la MONUSCO a reçu l'information de la détention arbitraire d'un individu par des habitants du village d'Ar, situé au nord-ouest de la base de la MONUSCO à Bayou. Selon ces habitants, le village d'Ar aurait l'intention de transférer la garde de l'individu à des membres de la société civile de Boulé, les incitant à demander l'aide de la MONUSCO pour assurer la sécurité et faciliter les négociations pour la libération de cet individu. En réponse, les forces de la MONUSCO ont déployé une patrouille d'invention rapide de la base de Mayo au village de Boulé, en coordination avec un officier des FADC et des membres de la société civile, notamment le chef de la communauté Boulé, le président de la société civile et un assistant linguistique pour aider à toute négociation nécessaire entre la MONUSCO et les habitants. En arrivant au village d'Ar, il a été découvert que la personne détenue souffrirait d'une maladie mentale et avait été détenue en raison de soupçons sur ses mouvements. La patrouille de la MONUSCO a récupéré l'individu et ensuite profité de l'occasion pour organiser un dialogue intercommunautaire entre les communautés. Ils ont exprimé leur gratitude à MONUSCO pour son soutien et se sont engagés à maintenir l'harmonie communautaire. Par la suite, la patrouille de la MONUSCO s'est rendue au village de Boulé, accompagnée des restants communautaires afin de remettre la personne précédemment détenue saine et sauve à sa famille.
Et un jour avant cet incident, le 30 mai 2024, à Amé cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé entre la MONUSCO et les associations communautaires?
Le 30 mai 2024, la base de la MONUSCO à Amé a organisé une session cruciale d'engagement des dirigeants avec les chefs de groupement et divers responsables de la communauté pour répondre aux préoccupations sécuritaires et humanitaires. Bien que la sécurité se soit améliorée à Djougou et Mahagi ces derniers temps, les milices de la CODECO continuent de représenter des menaces dans des zones telles que Kangal 2 et Mbrumbu. Un camp de la CODECO près du village de Choubé a été identifié comme une menace importante. Les discussions ont également porté sur la mauvaise gestion de l'aide qu'ils reçoivent. La MONUSCO est sollicitée en collaboration avec les dirigeants locaux pour assurer une distribution équitable et soutenir le programme de désarmement, démolition, relèvement communautaire et stabilisation. L'accent a été mis sur la sécurisation des zones pour faciliter le retour en toute sécurité des populations déplacées.
Revenons un peu à Kanyabayonga encore, une fois de plus. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les dégâts causés par l'obus lancé sur la base de la MONUSCO? C'était le 6 juin.
Oui, effectivement. Le 6 juin 2024, la base de la MONUSCO à Kanyabayonga a également été la cible de tirs indirects de mortier, blessant un soldat de la paix et endommageant la base. C'est la quatrième fois que la base de la force de maintien de la paix est la cible d'affrontements de haute intensité dans la région, en plus des maisons civiles. Malgré tout, la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci.
Je vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa, supervisée et coordonnée par Jude Bilandankoumar et Jacques-Yves Molima. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous d'avoir été avec nous.